Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze speciale uitzending over het conclaaf. In deze speciale uitzending, beste luisteraars, gaan we luisteren naar een interview met de nuncius voor België en Luxemburg, Monseigneur Coppola. Maandag mochten we bij hem op bezoek gaan om hem enkele vragen te stellen over hoe goed hij de paus kende en natuurlijk ook in het bijzonder over het conclaaf. Laten we luisteren. Monseigneur Coppola, merci de nous recevoir chez vous pour pouvoir vous poser des questions. Merci beaucoup. Le pape François vous a nommé nonce en Belgique le 15 novembre 2021. Vous le connaissiez bien?
Oui, j'avais eu la chance de le connaître de très près pour la préparation de notre voyage. Le voyage ici en Belgique, pour moi, était le deuxième voyage. La première fois, je l'ai reçu en Centrafrique en 2015. Il est venu visiter la Centrafrique. Ça a été un voyage dans des circonstances exceptionnelles, considéré un pays qui est en guerre civile, où il n'y a pas de forces régulières, seulement deux bandes de rebelles qui se confrontent. Et le pape qui vient, avec tous les soucis de sécurité, toutes ces choses-là. On avait beaucoup de fois, on s'était rencontrés, mais il était fort décidé à faire ce geste, qui d'ailleurs a été très apprécié par la population.
En bij de start van ons interview bedankte ik Monseigneur Coppola dat hij ons bij hem thuis ontvangen heeft om hem enkele vragen te kunnen stellen over Paus Franciscus, over het conclaaf. Iedereen weet dat hij op 15 november 2021 door Paus Franciscus is benoemd tot nuncius. En ik vroeg hem als hij de paus goed kende. En hij vertelde dat hij het geluk had hem goed te kennen. Dat was al, vertelt hij, tijdens de voorbereiding van onze reis. De reis hier naar België was voor mij de tweede keer. De eerste keer ontmoette ik hem in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2015. Hij kwam toen op bezoek in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het was een reis onder uitzonderlijke omstandigheden, in een land dat verwikkeld was in een burgeroorlog, waar geen reguliere strijdkrachten waren, alleen rebellenbendes die met elkaar vochten. En dan komt de paus, ondanks alle veiligheidszorgen en risico's. We hadden elkaar vaak ontmoet in die periode. Maar hij was zo vast besloten, ondanks de veiligheidszorgen en risico's, om dit gebaar te stellen, wat bovendien enorm gewaardeerd werd door de bevolking.
Impressionnant, ça me reste tout dans les yeux de ce voyage, mais une des choses, c'est là-bas, il y a un manque d'énergie, donc la nuit, il n'y a pas de courant électrique. Donc tout dans l'obscurité, et donc le maximum d'insécurité. Et alors, le pape est resté une nuit, il est parti le lendemain, et tout autour de l'annonciature, pour plusieurs centaines de mètres, sur toutes les routes, les gens sont venus se coucher pour dormir avec le pape.
C'est magnifique.
Extraordinaire, vraiment. L'affection, l'enthousiasme qu'il a suscité à des gens qui étaient et sont oubliés partout dans le monde. Donc, voir le pape qui allait et passer des jours avec eux, ça les a touchés fortement. Et ça m'a donné la possibilité de rencontrer de plus près le pape, de connaître son audace, son courage, son inspiration, le fait de sentir que quelque chose, c'est le Seigneur qui lui demande cela, et alors il le fait, malgré qu'il y a des difficultés, des complications, des objections, des craintes. Non, je dois le faire, je le fais.
Et puis vous avez eu la chance, nous avons eu la chance d'avoir le pape ici en Belgique, donc vous avez appris à le connaître encore plus.
Oui, bien sûr. C'était beaucoup plus facile à organiser ici en Belgique, tout était donné. Vraiment, il y a eu une pleine collaboration de la part de tout le monde et même de la part de l'État, des organes de l'État. Donc ça a été organisé bien, je pense, très bien, vraiment.
Monseigneur Coppola vertelt verder. Het was echt een indrukwekkende reis. Die reis staat nog altijd helder op mijn netvlies. Een van de dingen die me zijn bijgebleven is het volgende. Daar ter plekke was er een tekort aan energie. 'S Nachts was er geen elektriciteit, dus alles was gehuld in duisternis, wat natuurlijk de onveiligheid vergrootte. En toch bleef de paus er een nacht overnachten. Hij vertrok pas de volgende dag. En rondom de nunciatuur, op alle wegen daar rond, kwamen honderden mensen slapen, gewoon om in zijn nabijheid te zijn. Dat is werkelijk buitengewoon. De genegenheid, het enthousiasme dat hij opwekte bij mensen die vernederd en vergeten zijn in de rest van de wereld. Het feit dat de paus enkele dagen bij hen doorbracht, raakte hen diep. En dat gaf mij ook de kans om de paus van dichtbij te leren kennen. Zijn durf, zijn moed, zijn inspiratie. Hij voelde duidelijk aan. Dit is iets wat de Heer van mij vraagt. En dan doet hij het, ondanks moeilijkheden, complicaties, bezwaren of angsten. Nee, zegt hij dan, ik moet het doen, dus ik doe het. En natuurlijk had de nuncius de kans om nog eens een reis te organiseren voor paus Franciscus en wij hadden het geluk om de paus hier in België nog te kunnen ontvangen. En ja, hij leerde hem natuurlijk nog wat beter kennen daar. En Monseigneur Coppola antwoordt, jazeker, absoluut. Hier in België was het natuurlijk veel gemakkelijker te organiseren. Alles was voorzien. Er was echt volledige samenwerking van iedereen, ook van de overheid en haar instellingen. Dus het werd heel goed georganiseerd, echt uitstekend. Quel souvenir gardez-vous du pape François?
La première chose qui m'a impressionné, parce que c'est quelque chose qui me manque complètement à moi, c'est la mémoire qu'il a. Il voit une personne une fois et il se rappelle pour toujours.
C'est une qualité, hein?
Oui, vraiment. Et dès la première fois qu'il m'a rencontré, toutes les fois après, il se souvenait bien de tout. Et il m'avait parfaitement photographié et il se souvenait aussi de ce qu'on avait parlé. Vraiment un registrateur portable impressionnant, impressionnant. Ce qui dit aussi, à part la qualité que la personne peut avoir de se souvenir des choses, de toute façon, l'attention, avec qui elle écoute et garde dans son cœur ce que l'autre lui a dit. Donc cette attention et cette mémoire m'a toujours impressionné.
En ik vraag aan Monseigneur Coppola welke herinnering hij bewaart aan paus Franciscus. Hij vertelt. Wat me het meest heeft getroffen, ook omdat ik het zelf helemaal niet heb, is zijn uitzonderlijk geheugen. Hij moet iemand één keer zien en onthoudt die persoon voor altijd. Echt een bijzondere kwaliteit. En vanaf de allereerste ontmoeting herinnerde hij zich bij elke volgende gelegenheid alles nog perfect. Hij had me als ware sterk gefotografeerd in zijn geest en herinnerde zich ook ons gesprek. Echt een indrukwekkend menselijk opnameapparaat. Dat getuigt niet alleen van een sterk geheugen, maar ook van aandacht. Hij luistert echt, hij bewaart wat iemand hem zegt in zijn hart. En die aandacht en dat geheugen hebben me altijd diep geraakt.
Après, un regard à la fois deux fois sur les situations, mais aussi capable de légèreté. De ne pas se prendre trop au sérieux. On fait ce qu'on peut faire, si ça ne marche pas, c'est le Seigneur qui s'en chargera, c'est pas tout dépend de moi. Et dans ses mains, les projets et les intentions qu'on a. Et donc ça aussi, c'était impressionnant, sa capacité d'avoir un regard de foi, donc toujours se demander qu'est-ce que le Seigneur voulait dans cette situation. Mais de l'autre côté aussi, savoir trouver une façon humoristique un peu de sortir en riant d'une situation difficile.
Ouais. En verder, zag je bij hem tegelijk ook een heel groot geloof, een ernst en toch een lichtheid. Hij neemt zichzelf niet te serieus. Hij doet wat hij kan en als het niet lukt, zegt hij, dan zal de Heer het wel overnemen. Niet alles hangt van mij af. Alles ligt in Gods handen, ook onze plannen en bedoelingen. En die geloofsblik is indrukwekkend. Altijd de vraag stellen wat de Heer in een bepaalde situatie van hem vraagt. Maar aan de andere kant heeft hij ook het vermogen om met humor uit een moeilijke situatie te stappen, door gewoon ergens mee te lachen.
Un pape que notre temps avait besoin.
Oui, oui, oui. Mais je dis, je ne sais pas, mais je me dis qu'on a de la chance. J'ai connu, j'étais trop petit, mais de toute façon, j'étais vivant, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, Pape François. Je dis qu'on a été gâtés parce qu'on a eu vraiment des papes très différents entre eux, comme caractère, comme émotion, capacité de communication, mais tous vraiment la personne qu'il fallait au moment où il fallait. Et donc je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir. Je pense que si le Seigneur jusqu'à présent nous a donné le pape juste pour le moment, il va nous donner le pape juste pour le moment qui vient.
Ik vraag aan Monseigneur als het een paus was die onze tijd nodig had. Hij antwoordt, ja. Ik weet het niet, ik kan het niet helemaal zeggen, maar ik denk dat we heel veel geluk hebben gehad. Ik heb enkele pausen gekend, niet allemaal goed, want ik was te jong, maar ik heb ze toch allemaal meegemaakt. Johannes 23, Paulus 6, Johannes Paulus de Eerste, Johannes Paulus de Tweede, Benedictus de Zestiende en nu Paus Franciscus. Ik zeg altijd dat we verwend zijn geweest. We hebben heel veel verschillende pauzen gehad qua karakter, gevoeligheid en communicatiestijl. Maar telkens was het precies de juiste persoon op het juiste moment. Daarom maak ik me ook niet veel zorgen over de toekomst. Als de Heer ons tot nu toe telkens de juiste paus op het juiste moment heeft gegeven, dan zal Hij dat ook blijven doen.
Et si ça va pour vous, Monseigneur, j'aimerais parler un peu de comment on communique au monde que le pape est mort. Qu'est-ce qui se passe quand le pape décède? Il y a toujours un peu de temps avant que ce soit communiqué au monde. Vous savez ce qui se passe pendant ces quelques heures?
Ah ben, je l'ai su comme tout le monde. On n'a pas eu de communication préventive, les nonciatures. Tout simplement, je dois dire, mon collaborateur, le secrétaire, est coréen. Il y a eu un journal online coréen qui a donné la nouvelle avant tous, avant tout le monde, même avant les journaux italiens. Et c'est lui qui est venu me dire, mais je lui dis que le pape est mort. Alors je suis allé chercher et quelques minutes après, on donnait la nouvelle. C'était un peu avant 9h, lundi. Et le pape était mort à 7h30, donc c'est passé 1h30, le temps de constater, d'être sûr de cela, et après prendre les premières mesures.
En ik vraag aan Monseigneur Coppola, als we even kunnen spreken over, ja, hoe verloopt dat eigenlijk, het meedelen aan de wereld dat de paus overleden is? Wat gebeurt er op dat moment? Er is altijd een korte tijdspanne voordat het nieuws naar buiten komt. En ik vraag hem als hij weet wat er in die eerste momenten, eerste uren, gebeurt. En hij vertelt het volgende. Wel, ik weet het eigenlijk net als iedereen. We krijgen als nunciatuur geen voorafgaande communicatie. Mijn medewerker, de secretaris, een Koreaan, had het nieuws gelezen op een Koreaanse online krant. Die bracht het nog voor alle andere media uit, zelfs voor de Italiaanse kranten. Hij kwam me zeggen, Monseigneur, ik lees hier dat de paus is gestorven. En dan ben ik op zoek gegaan en een paar minuten later werd het bericht officieel bevestigd. Dat was iets voor 9:00 ochtends op een maandag, paasmaandag. De paus was gestorven om 7:30. Er zat dus 1,5 uur tussen het overlijden en de officiële bekendmaking. In die tijd wordt er gecontroleerd en zekerheid verkregen en daarna worden de eerste maatregelen genomen.
Le Saint-Siège est le gouvernement de l'Église au nom du pape. Donc une fois que le pape meurt, tous les autres perdent leur autorité. Tous les préfets des différents dicastères vaticans, le secrétaire d'État, tous, automatiquement perdent leur fonction. Parce qu'ils sont là comme délégation du pape. C'est le pape qui les nomme. Une fois que le pape est mort, il perd leur... Juste aussi pour laisser libre le successeur de nommer des personnes de sa confiance. Il doit former son gouvernement avec des personnes de son confiance. Et donc, pendant cette période, après la mort du pape, c'est le collège des cardinaux, dans son ensemble, qui gouverne le Vatican, le Saint-Siège, mais avec l'instruction qu'il ne doit rien innover. Il n'a aucun des pouvoirs du pape. Il doit seulement gérer la transition et l'élection du nouveau pape. On ne peut pas prendre des décisions qui sont réservées au pape.
En de nuncius vertelt. De heilige stoel en het bestuur van de kerk in naam van de paus, wel, zodra de paus overlijdt, verliest iedereen zijn mandaat. Alle prefecten van de Vaticaanse congregaties, de staatssecretaris, verliezen automatisch hun functie. Want ze zijn aangesteld als vertegenwoordigers van de paus. Ze zijn benoemd door de paus en zodra hij overlijdt, verliezen ze hun bevoegdheden. Dat gebeurt ook om de weg vrij te maken voor zijn opvolger, zodat die zijn eigen vertrouwelingen kan aanstellen en zijn bestuur kan vormen. In de periode na het overlijden van de paus wordt het Vaticaan bestuurd door het College van Kardinalen, maar met de duidelijke instructie om niets nieuws te initiëren. Ze hebben geen pauselijke macht. Ze mogen enkel de overgang beheren en de verkiezing van de nieuwe paus organiseren. Ze mogen geen enkele beslissingen nemen die aan de paus zijn voorbehouden.
Is dit een periode assez kort?
Oui, en général, oui. Si vous considérez le pape est mort le 21 avril, le 7 mai, donc 9 plus 7, 16 jours après, commence le conclave. S'il n'y aura pas de difficultés majeures, tout le monde prévoit dans 2 ou 3 jours qu'on aura le nouveau pape. Donc moins de 3 semaines après, on aura le nouveau pape.
Oui.
En ik vraag aan Monseigneur Coppola als dat doorgaans wel een vrij korte periode is. En hij antwoordt, in het algemeen wel. De paus is nu overleden op 21 april. Het conclaaf begint vandaag 7 mei, dat is 16 dagen later. Als er geen grote moeilijkheden zijn, verwacht men meestal dat er binnen 2 à 3 dagen een paus gekozen wordt. Dus binnen de 3 weken hebben we doorgaans een nieuwe paus.
Et est-ce qu'on doit se voir en tant que croyant qu'on est un peu orphelin durant ces 16 jours ou...
Oui, on peut le penser. Pour moi, c'est un petit peu une sorte d'orphelinat, oui. Bien que, surtout parce que c'est la personne par laquelle on a été guidé, on a été conduit par la main, surtout si on a eu la chance, la grâce de pouvoir le fréquenter, être le côtoyer, être près de lui.
Ik vraag aan de nuncius, als we ons als gelovigen dan een beetje wees moeten voelen tijdens die 16 dagen. En hij antwoordt, dat kan je wel zo zien. Voor mij is het inderdaad een beetje een soort van wezenstatus. Zeker omdat die persoon, ja, dat is de persoon door wie we geleid zijn, bij de hand genomen. Zeker als je de kans en genade hebt gehad om hem van nabij mee te maken, hem te kennen.
Mais aussi, c'est l'occasion pour réaffirmer notre foi que c'est le Seigneur qui guide l'Église. Bien sûr, il sait que nous sommes de chair et d'os, nous avons besoin de personnes qu'on peut voir, toucher pour l'incarner, donc on a besoin d'un pape, mais c'est le Seigneur qui guide son Église. Donc on fait le deuil, parce que de certaine façon c'est une personne chère et qui nous a été chère, qui nous manque maintenant. Mais on est aussi sûr en même temps qu'on ne reste pas orphelin, dans le sens que le Seigneur va pourvoir la personne qui pourra nous conduire, nous accompagner dans les prochaines années.
Maar, vertelt Monseigneur Coppola verder, het is ook een gelegenheid om onze geloofsovertuiging te bevestigen, dat het de Heer is die de kerk leidt. Natuurlijk weet hij dat wij mensen van vlees en bloed zijn. We hebben nood aan mensen die we kunnen zien en aanraken om dat geloof te belichamen. Dus ja, we hebben een paus nodig. Maar het is uiteindelijk de Heer die zijn kerk leidt. We rouwen omdat het om iemand gaat die ons dierbaar was, die we nu missen. Maar tegelijkertijd hebben we ook het vertrouwen dat we geen wezen blijven. We weten dat de Heer iemand zal aanstellen die ons in de komende jaren zal leiden en begeleiden.
Et alors il y a les neuf jours de deuil, les novem diales. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est?
Ce sont neuf jours dans lesquels on prie pour le pape mort. C'est la tradition de l'Église de prier pour les défunts, demander au Seigneur d'avoir miséricorde d'eux. C'était certainement une personne exceptionnelle, une sainte personne, mais lui-même, il disait qu'il était un pécheur pardonné, donc c'était un pécheur, comme tout le monde, et donc il faut demander au Seigneur d'avoir miséricorde de lui et l'accueillir auprès de lui.
Et je demande à Monseigneur Coppola om te meer te vertellen over die negen dagen van rouw, de zogenaamde novem dialis. Wat betekent dat precies? En hij antwoordt: dat zijn negen dagen waarin we bidden voor de overleden paus. Het is een traditie binnen de kerk om voor onze overledenen te bidden. We vragen de Heer om barmhartigheid. Ook al was hij een uitzonderlijk persoon, misschien zelfs een heilige man, hij zelf zei altijd dat hij een vergeven zondaar was. Een zondaar zoals ieder ander. En daarom vragen we de Heer om hem genadig te zijn en hem bij zich op te nemen.
Alors, l'Église, pour neuf jours, c'est beaucoup, prend ce temps de neuf jours de prière pour lui. Et toutes les messes qui sont célébrées au Vatican dans ces neuf jours sont messes pour le repos de l'âme du pape, jusqu'à hier, jusqu'à dimanche passé. À partir d'aujourd'hui, on commence à prier pour le nouveau pape. On utilise une autre messe qui est pour le pape qu'on va élire. Alors c'est une messe dans laquelle on demande au Seigneur l'Esprit Saint nécessaire pour que les cardinaux puissent se mettre sur les ondes de l'Esprit Saint, savoir regarder les choses, les personnes comme le Seigneur les regarde, pour choisir vraiment ce que le Seigneur a élu.
En gedurende negen dagen, vertelt Monseigneur Coppola, is dat dus de focus, gebed voor de overleden paus. Alle missen die in die periode in het Vaticaan worden opgedragen, zijn voor de zielerust van paus Franciscus. Sinds maandag zijn ze begonnen dan te bidden voor de nieuwe paus. Er wordt dan een andere mis gebruikt, gericht op de verkiezing van de nieuwe paus. We vragen daarin aan de Heer om de Heilige Geest, zodat de kardinalen zich kunnen afstemmen op zijn wil. Dat ze de mensen en situaties kunnen bekijken zoals God dat doet. Om zo de juiste persoon te kiezen, degene die de Heer verkozen heeft.
Et alors, à propos du conclave, est-ce qu'il existe un véritable travail de lobbying? Existe-t-il un protocole pour cela? Est-ce que les cardinaux sont autorisés à en parler aux médias, entre eux?
Disons que le conclave a une histoire. Bien sûr, le fait d'élire le pasteur suprême de l'Église catholique pour le passé a suscité l'envie des puissances de se mêler dans cette élection pour que soit élu quelqu'un qui soit favorable à une puissance plutôt qu'une autre. Alors cela a obligé l'Église à se défendre de cela et pour cela d'entourer d'un secret absolu les réunions et les discours entre cardinaux, de façon que rien puisse sortir et ni rien entrer pour les déranger dans leur choix qui devrait être seulement comme quand ils votent dans la Chapelle Sistine sous l'image du jugement universel. Vraiment, voter sous le regard de Dieu.
En ik vraag aan Monseigneur Coppola, wat vragen omtrent het conclaaf, bestaat er echt zoiets als lobbywerk? Zijn daar verschillende protocollen voor? Wordt daar iets rond gedaan? Mogen de kardinalen met elkaar of met de media praten en zo verder? Hij antwoordt ons. Het conclaaf heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Het kiezen van de hoogste herder van de katholieke kerk heeft in het verleden vaak de interesse gewekt van de wereldlijke machten, die invloed wilden uitoefenen om iemand de verkiezing die hun goedgezind was. Daarom heeft de kerk zich moeten verdedigen door absolute geheimhouding in te voeren voor de bijeenkomsten en gesprekken tussen de kardinalen. Zo kan er niets naar buiten sijpelen en wordt men ook niet van buitenaf beïnvloed. Het is een proces dat puur moet gebeuren. Zoals ze wanneer ze stemmen in de Sixtijnse kapel onder het fresco van het laatste oordeel. Eigenlijk werkelijk stemmen onder Gods blik.
Et alors, c'est vrai que les cardinaux, dès qu'ils arrivent à Rome pour participer, déjà, ils ont fait un serment de confidentialité dans lequel ils s'engagent à ne pas parler aux journalistes de cela. Aussi parce que il ne s'agit pas de faire vraiment un travail de lobbying ou d'influence, mais il s'agit de chercher ensemble. Ce sont eux qui sont députés à l'élection et ils doivent essayer de se connaître, tout d'abord. C'est la première fois qu'il y a un conclave si nombreux, 133 cardinaux, et aussi qui s'est constitué très rapidement et très récemment. Une grande partie de ces cardinaux, 30-40, ont été nommés par le pape dans les deux dernières années. Donc, ils n'ont pas eu la possibilité encore de bien se connaître et connaître les autres.
En de nuncius vertelt verder. Kardinalen moeten bij aankomst in Rome al een eed van geheimhouding afleggen. Daarin beloven ze niets met journalisten te delen. En het gaat er niet om aan lobbywerk of beïnvloeding te doen, maar om werkelijk samen op zoek te gaan. Zij zijn degene die de taak hebben om te kiezen. Ze moeten elkaar dus eerst leren kennen. Dit is trouwens de eerste keer dat een conclaaf zo talrijk is. Er zijn 133 kardinalen en veel van hen zijn pas recent benoemd. Een dertigtal, misschien 40 van hen, zijn door de paus in de laatste 2 jaar benoemd. Ze hebben dus nog niet de kans gehad om elkaar echt te leren kennen.
Et donc, ces jours, au-delà de la prière pour le pape défunt, ont été utilisés pour eux à travers des congrégations, ce sont des assemblées de cardinaux, des assemblées pour échanger entre eux, pour s'entre-écouter, chacun d'eux, ce n'est pas obligatoire, mais qui veut peut dire, donner aux autres, à travers une petite intervention, sa vision de la situation de l'Église, sa vision de ce qu'il faudrait pour l'Église, de l'attitude qu'il faudrait, des qualités que devrait avoir le nouveau pape. Et on sait, on l'a su après, que par exemple l'intervention du cardinal Bergoglio pendant ses congrégations avant le conclave lui avait mérité l'attention et avait conquis tout le monde. Parce que vraiment, les cardinaux ont dit il a vraiment un regard actuel, le regard qu'il faut aujourd'hui. Cette intervention a permis aux autres de le découvrir, parce que ce n'est pas un cardinal très connu, mais ils l'ont connu à travers ses déclarations et l'ont apprécié, et ils se sont sentis en syntonie avec lui et l'ont voté.
En daarom, vertelt Monseigneur Coppola, worden deze dagen, naast het bidden voor de overleden paus, ook benut voor de zogenaamde congregaties, vergaderingen tussen de kardinalen. In die vergaderingen kunnen ze uitwisselen en kennis maken. Het is niet verplicht, maar wie wil, kan een korte toespraak geven over zijn visie op de situatie van de kerk, welke kwaliteiten de nieuwe paus moet hebben en wat er nodig is. Bijvoorbeeld de toespraak van kardinaal Bergoglio voor het vorig conclaaf heeft veel indruk gemaakt. Hij was daarvoor niet erg bekend, maar door zijn woorden voelden de anderen meteen een connectie. Ze herkenden in hem iemand met de juiste kijk op de wereld op dat moment. Dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn verkiezing.
Donc, sont des choses qui se font dans la discrétion parce que pour permettre vraiment devant Dieu et devant la personne d'être honnête avec soi-même et pas sous la pression des différents lobbies qui peuvent y avoir partout dans le monde. Et donc, sont des jours qui servent pour cela, pour s'écouter, pour permettre à chacun de donner un peu sa vision et ensemble mûrir qui est la personne qui pourrait mieux conduire l'Église dans les prochaines années.
En Monseigneur vertelt verder. En dit alles gebeurt allemaal in discretie, zodat men eerlijk en onder Gods blik kan handelen en niet onder invloed van wereldlijke druk of lobbygroepen. Die dagen dienen dus om elkaar te beluisteren, om ieders visie te horen en samen te rijpen in de overtuiging van wie de kerk het best kan leiden de komende jaren.
Et alors, le conclave en soi, comment ça se passe? Parce qu'on sait ils vont voter 4 fois par jour. Comment, vous savez comment se passe ce moment? Parce que vous dites, ils votent envers Dieu. C'est un moment de prière. Comment on doit imaginer
ça? Oui, oui. C'est introduit par la prière. Et après, ils ont un bulletin sur lequel ils doivent marquer le nom de la personne qu'ils entendent voter. Et ils vont déposer dans un calice leur bulletin, ce calice qui est sur l'autel, qui est sous le jugement universel. Donc dans ce sens, vraiment. Et ils le déposent en récitant une formule qui rappelle cela, que devant Dieu, ils pensent que cette personne est la personne indiquée pour conduire l'Église dans les prochaines années, devant Dieu.
En ik vraag aan Monseigneur Coppola, de nuncius, wat er eigenlijk concreet gebeurt tijdens het conclaaf. We weten dat ze 4 keer per dag gaan stemmen. Hoe verloopt dat moment van stemmen? Monseigneur zei dat ze stemmen onder Gods blik. Het is ook een moment van gebed. Hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? En hij vertelt. Het begint inderdaad met gebed. En daarna krijgen ze een stembiljet waarop ze de naam van de persoon die ze kiezen moeten schrijven. Ze leggen dan het stembiljet in een kelk op het altaar. Dat staat onder het fresco van het laatste oordeel. Dus in die zin is het echt een moment waarin ze dan ook echt een bepaalde zin uitspreken ten opzichte van God. Ze leggen het stembiljet neer met de woorden dat onder Gods blik ze geloven oprecht dat deze persoon de juiste is om de kerk in de komende jaren te leiden. Onder Gods blik.
Le premier jour, mercredi, le 7 mai, c'est prévu seulement une votation. C'est à partir du lendemain qu'il seront 4 votations, 2 le matin, 2 l'après-midi. Et ça permettra évidemment d'orienter les votations. On l'a su parce que, malgré le secret, disons, et quelque chose la confesse les cardinaux après, on l'a su par exemple que quand a été élu pape Benoît XVI, déjà il y avait un certain nombre de cardinaux qui portaient Bergoglio comme leur candidat et qui le votaient. Mais c'était un petit nombre par rapport à ceux qui portaient le pape Ratzinger.
En Monseigneur vertelt verder. Dus, dit is ook op de eerste dag, woensdag 7 mei, vandaag dus. Er wordt dan slechts 1 stemming verwacht. Vanaf de volgende dag worden er 4 stemmingen gehouden, 's ochtends en 's middags. Dat zal uiteraard helpen om de stemmingen te sturen. We hebben het te weten gekomen omdat, ondanks het geheim was, toch iets gelekt werd. Toen paus Benedictus XVI werd gekozen, was er al een aantal kardinalen die Bergoglio als hun kandidaat hadden. Ze stemden voor hem, maar het aantal was te klein in vergelijking met degene die voor de huidige paus stemde.
En lui, dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui le votaient, mais qui étaient évidemment trop petits par rapport à cela, il a invité les gens qui l'avaient voté de rejoindre Ratzinger et de le voter. Donc ce sont les mêmes candidats à un certain moment qui se rendent compte vraiment dans un esprit de foi. Si quelqu'un veut devenir pape, c'est la meilleure façon pour ne pas devenir jamais pape, parce que tout de suite les autres savent te regarder et savent que tu n'es pas apte pour être pape si tu veux devenir pape. Donc.
En Monseigneur vertelt verder. En toen Bergoglio besefte dat er een aantal mensen voor hem stemden, maar dat het nog veel te klein was in vergelijking met de andere stemmen, nodigde hij degene die op hem hadden gestemd uit om zich bij de anderen aan te sluiten. Op die manier, op een gegeven moment, waren het dezelfde kandidaten die zich realiseerden dat men de Heilige Geest moet volgen. Het is echt wel een kwestie van geloof. Als iemand paus wil worden, is dat de beste manier om nooit paus te worden. Want iedereen zal meteen zien dat je niet geschikt bent als je zoiets wilt.
Donc tout le monde, surtout ces candidats qui sont portés, sont certainement des personnes humbles, sont des personnes qui veulent le bien de l'Église. Le bien de l'Église ne serait pas certainement de se déchirer. Et donc, quand ils voient qu'il y a une bonne partie des cardinaux, même si ce n'est pas encore la majorité requise, qui est orientée vers cette personne, normalement, on favorise l'élection. Comme ça s'est passé pour l'élection de Benoît XVI, et de la même façon s'est passé pour l'élection du pape François, qui se sont avenus le deuxième jour, tous les deux. Donc c'est assez rapide. Normalement, c'est déjà le deuxième jour. Troisième jour peut-être, parce que vraiment cette fois, c'est très nombreux, sont beaucoup. Et donc ça pourrait être éparpillé, le vote, parce qu'ils ne se connaissent pas encore trop et tout cela. Mais ça pourrait être, mais je ne pense pas que ça va aller au-delà de ça.
Dus iedereen, vertelt Monseigneur Coppola, vooral deze kandidaten, deze kardinalen, zijn zeker bescheiden mensen, nederig, mensen die willen dat het goed gaat met de kerk. Het zou zeker niet goed zijn voor de kerk om zich te splitsen. Wanneer men dus een grote groep kardinalen heeft die, ook al is het nog niet de meerderheid, zich naar een bepaalde kandidaat richt, wordt de verkiezing meestal bevorderd, zoals dat gebeurde bij de verkiezing van paus Benedictus XVI en paus Franciscus, die beiden op de tweede dag van de verkiezing van het conclaaf werden gekozen. Dus normaal gezien is het toch wel snel. De tweede of derde dag misschien, omdat het dit keer een groep is die erg groot is, veel mensen, en ze kennen elkaar nog niet goed. Daarom zou het wel wat langer kunnen duren, maar ik denk niet dat het verder dan dat zal gaan.
Oui, donc le pré-conclave, comme on le nomme, est vraiment très important.
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Oui, pour se connaître entre eux, c'est fondamental. Et ils font des réunions. Aujourd'hui, ils ont fait 2 réunions, le matin et l'après-midi, pour justement pour s'écouter, écouter la vision qu'on a de l'Église. Aussi, passer mal les paroles. Hein. On voit beaucoup de choses de la personne, comment elle le dit. Tout compte, tout compte.
Le charisme.
Oui. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui ont été choisis par le pape François, donc ça veut dire que sont des personnes appréciées par l'Église, sont des personnes qui ont fait déjà un cheminement, qui ont fait des épreuves, sont pas des petits gamins, donc ils ont des yeux qui savent reconnaître la personne, les personnes. Donc,
Dus ik vraag aan Monsignor Coppola, het preconclaaf is dus echt wel heel belangrijk. Hij antwoordt, ja, het is erg belangrijk om elkaar te leren kennen. Dat is echt fundamenteel. Ze houden dagelijks 2 vergaderingen, vandaag bijvoorbeeld 1 's ochtends en 1 na 12 uur, om elkaar te horen en de visie op de kerk te bespreken. En weet je, het gaat niet alleen om woorden, maar ook om het zien van mensen. Omdat alles telt. En bovendien zijn het mensen die al door Paus Franciscus zijn gekozen, wat betekent dat ze worden gewaardeerd door de kerk. Ze hebben al een pad afgelegd, ze hebben beproevingen doorgemaakt. Het is geen bende kleine kinderen, ze hebben de ervaring en het inzicht om de juiste mensen te erkennen.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que le fait que ce soit des cardinaux qui peuvent élire le nouveau pape, c'est parce que aussi ils ont eu ce titre de cardinal en remerciement pour tout ce qu'ils ont déjà fait pour l'Église. Pourquoi c'est que 135 cardinaux qui peuvent décider?
Oh oui,
c'est la tradition, peut-être.
Il n'y a pas une raison spécifique. Le pape Jean-Paul II avait mis la limite de 120 et on est resté avec cette limite de 120. Parfois, les papes ont nommé quelques cardinaux en plus en considérant que dans une année, dans 2 ans, il y en a plusieurs qui passent la limite des 80 ans et donc ça réduit. Et peut-être le pape François, de la même façon, il avait nommé un peu plus en considérant qu'entre cette année et l'année prochaine, une quinzaine passe les 80 ans. Mais il est mort avant et donc ils sont déjà cardinaux et ils sont 135.
Ja, en ik vraag aan Monseigneur, als we kunnen zeggen dat het feit dat de kardinaal de nieuwe paus kiezen ook te maken heeft met het feit dat ze dan uiteraard die titel van kardinaal hebben gekregen als beloning voor alles wat ze reeds voor de kerk hebben gedaan. Waarom zijn het eigenlijk slechts 135 kardinalen die kunnen beslissen? En hij antwoordt, er is geen specifieke reden. Paus Johannes Paulus II stelde de limiet op 120. We zijn daarbij gebleven. Soms benoemen de pausen enkele extra kardinalen, omdat in 1 jaar of 2 er meerdere kardinalen boven de 80 zullen zijn, wat het aantal dan terugbrengt. Misschien heeft Paus Franciscus op dezelfde manier enkele extra kardinalen benoemd, maar omdat tussen dit jaar en het volgende jaar er ongeveer 15 kardinalen 80 jaar oud zullen zijn. Maar hij is hier voor overleden, dus zijn alle kardinalen in totaal met 135.
Mais en général, c'est pas un remerciement. Le cardinal est essentiellement un conseiller du pape, donc quelqu'un que le pape reconnaît comme porteur d'une vision de l'Église, d'une expérience pastorale. C'est pour cela qu'ils sont de partout dans le monde. Ce sont pas d'une partie spéciale, mais de partout. L'Église doit rester catholique, donc doit répondre aux fidèles de tout le monde. Et donc, ce sont des personnes qui représentent bien l'Église dans les différents coins du monde. Et le pape les choisit comme ses conseillers, et sont eux qui vont choisir le nouveau pape.
Maar over het algemeen is het geen beloning, vertelt Monseigneur Coppola. De kardinaal is in wezen een adviseur van de paus. Iemand die de paus erkent als een persoon met een visie op de kerk en met pastorale ervaring. Dat is waarom ze van over de hele wereld komen. Niet alleen van 1 regio, maar van overal. De kerk moet universeel blijven. Het moet voor de gelovigen over de hele wereld zijn. Dus deze mensen vertegenwoordigen de kerk goed in verschillende hoeken van de wereld. En de paus kiest hen als adviseur. En zij zijn degene die dan de volgende paus kiezen.
Après que le pape est élu, on a bien sûr la fumée blanche, hein. C'est ce que les gens se souviennent le plus quand il y a un nouveau pape. Il y a toujours un moment entre l'élection du pape et puis le moment au balcon de la place Saint-Pierre. Qu'est-ce qui se passe dans les premiers moments pour le pape qui est élu?
Tout d'abord, on lui demande s'il accepte l'élection, parce que ce n'est pas obligatoire. Et une fois qu'il accepte les élections, il lui demande quel nom il veut porter. Et après, il se retire dans une chambre à côté de la chapelle Sistine. On l'appelle la chambre des larmes. Parce que on pense que c'est le moment où la personne qui a été élue est laissée seule. Et laissée seule parce qu'il doit se changer d'habit. Il doit prendre les habits et la robe blanche, tout cela. Donc c'est un moment où il est seul. Et pour la première fois, seul est confronté à tout ce qui lui est arrivé. À tout ce qui signifie le fait d'être pape. Et donc, normalement, dans ce sens, c'est la chambre des larmes, l'émotion qui prend le dessus.
En wanneer de paus is gekozen, vraag ik aan Monseigneur Coppola, zien we natuurlijk de witte rook. En er is altijd een moment tussen die werkelijke verkiezing en het moment op het balkon op het Sint-Pietersplein. En wat gebeurt er in die eerste momenten voor de paus die juist is verkozen? En Monseigneur antwoordt. Allereerst wordt hem gevraagd of hij de verkiezing accepteert. Dat is natuurlijk niet verplicht. En zodra hij de verkiezing accepteert, wordt hem gevraagd welke naam hij wil dragen. En daarna trekt hij zich terug in een kamer naast de Sixtijnse kapel, die de Kamer van de Tranen wordt genoemd. Omdat dit het eerste moment is waar de persoon die is gekozen alleen wordt gelaten. De persoon wordt alleen gelaten trouwens omdat hij zich moet omkleden. Hij moet de witte gewaden aantrekken en dat soort dingen natuurlijk. En het is een moment van voor het eerst alleen zijn en dan wordt hij voor het eerst geconfronteerd met alles wat hem is overkomen, met wat het betekent om paus te zijn. Dat kan ergens emotioneel zijn natuurlijk. En in die zin wordt het de Kamer van de Tranen genoemd.
En même temps, un des cardinaux, un cardinal, le protodiacre, que maintenant c'est un Français, un Corse, Dominique Mamberti, apparaît sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour annoncer au peuple qu'il a été élu un pape dont le nom est le nom qu'il a choisi. Et quelques minutes après, un peu de temps après, parce que le pape sort, déjà habillé comme pape, et reçoit tout de suite la promesse d'obéissance de la part de tous les autres cardinaux.
En Monseigneur Coppola vertelt verder. Tegelijkertijd komt een van de kardinalen, de protodiaken, die nu een Fransman is uit Corsica, kardinaal Dominique Mamberti, naar het balkon van de Sint-Pietersbasiliek, om het volk te verkondigen dat er een paus is gekozen en welke naam hij heeft gekozen. De paus heeft zich al in de pauselijke gewaden gekleed en dan ontvangt hij onmiddellijk de belofte van gehoorzaamheid van iedereen, van alle andere kardinalen.
L'Église est en communion. Donc, chaque évêque, quand il est nommé évêque, il promet obéissance au pape. Et donc, aussi les cardinaux, ils ont promis obéissance au pape du temps quand ils étaient élus. Quand on l'a nommé cardinaux, ils ont encore une fois promis obéissance. Maintenant, il y a un nouveau pape. Encore une fois, ils renouvellent leur obéissance. Donc, ça va prendre un peu de temps parce qu'il doit passer tous les 135. Et après, il sort du balcon de la Saint-Pierre pour bénir le peuple, pour saluer le peuple, ou pour recevoir la bénédiction du peuple, comme fait le pape François, qui demanda la bénédiction du peuple avant de le bénir.
Et Monseigneur Coppola vertelt, de kerk is echt een gemeenschap. Elke bisschop, wanneer hij wordt gewijd tot bisschop, belooft gehoorzaamheid aan de paus. En dus ook de kardinalen. Zij hebben gehoorzaamheid beloofd aan de paus op het moment dat ze werden benoemd. Wanneer er een nieuwe paus wordt verkozen, wel hernieuwen alle kardinalen die gehoorzaamheid. En dat kan even duren natuurlijk, omdat de paus de belofte van 135 kardinalen moet ontvangen en pas daarna komt hij naar het balkon op het Sint-Pietersplein om het volk te zegenen. Om, zoals paus Franciscus het deed, om de zegen van het volk te ontvangen.
C'est quand même, c'est toujours un moment historique, mais quand on voit la situation du monde aujourd'hui, on a l'impression que c'est peut-être encore plus historique. C'est peut-être un sentiment seulement, mais...
Mais pas seulement. Hein. Regardez qu'est-ce que s'est passé en Belgique, un pays tellement sécularisé, où vraiment semble n'avoir pas de sens. Non, j'ai lu quelques commentaires, quelques protestations de des gens qui ont protesté pour le minute de silence à la Chambre, comme si c'était quelque chose. Mais regardez la Belgique, comment a vécu la visite du pape. Les gens étaient impliqués, très impliqués, fort impliqués. La population était impliquée. Et aussi, maintenant, dans ces jours, quand le pape est mort, jamais tellement a pris la vie de l'Église la une de tous les journaux, que ce soit vu proche ou loin de l'Église. C'est un sujet qui importe.
En een conclave is altijd een historisch moment, maar gezien de situatie in de wereld vandaag, de situatie van de kerk, lijkt het misschien nog meer historisch, nog belangrijker. Maar dat is misschien maar een gevoel. De nuncius antwoordt: niet alleen een gevoel. Kijk wat er is gebeurd in België, een land dat zo geseculariseerd is, waar het lijkt alsof het allemaal geen betekenis meer heeft. Ik heb enkele reacties gelezen. Wat protesten van mensen die protesteerden tegen de minuut van stilte in het parlement, alsof de paus maar zomaar iemand is. Maar kijk naar België. Hoe heeft België de pauselijke bezoek ervaren? De mensen waren betrokken. Heel erg betrokken. En nu, zelfs nu de paus overleden is, overal spreekt men erover. Het leven van de kerk was op de voorpagina's van de kranten, of men nu dichtbij of ver van de kerk stond. Het is een belangrijk onderwerp.
En voor ons? C'est juste hier, dans la messe de hier, dimanche, il y avait Jésus qui trois fois demandait à Saint-Pierre, à Simon-Pierre, il n'était pas encore saint, à Simon-Pierre s'il aimait plus que les autres et lui donnait la charge de conduire ses brebis, de paître ses agneaux. Donc, l'élection d'un pape signifie avoir... On sait que le Seigneur guide l'Église et guide l'histoire, mais parfois on a des doutes parce qu'on voit que l'histoire... ne va pas nécessairement dans le sens qu'on espérait, ça va dans un sens qui donne espoir. Alors, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous aider à voir la présence de Dieu malgré l'obscurité, malgré les tempêtes qui peuvent traverser le monde. Quelqu'un qui puisse nous renforcer cette nécessité d'espoir qu'on a, qu'on sent dans notre cœur.
En voor ons, in de mis van zondag, was er Jezus die drie keer vroeg aan Simon Petrus, niet eens de heilige Petrus, maar aan Simon Petrus, of hij meer van hem hield dan de anderen. En hij gaf hem dan de taak om zijn schapen te leiden, zijn lammeren te hoeden. De verkiezing van een paus betekent... Kijk, we weten dat de Heer de kerk leidt en de geschiedenis leidt. Maar soms hebben we twijfels, omdat we zien dat de geschiedenis niet noodzakelijkerwijs de kant opgaat die we hadden gehoopt, maar weggaat van een richting die hoop geeft. We hebben iemand nodig die ons kan helpen om de aanwezigheid van God te zien, ondanks de duisternis, ondanks de stormen die de wereld doorkruisen. Iemand die ons kan versterken in de hoop die we in ons hart hebben.
C'est pas pour rien que le pape François a voulu dédier cette année jubilaire à l'espérance. On vit dans un monde où tout nous amène à penser que nous pouvons suffire à nous-mêmes, mais en même temps aussi, nous nous trouvons que ça nous manque une perspective ultérieure, ça nous manque l'espérance. quand je rencontre, je suis en train de commencer à m'occuper du diocèse de Gand, parce que l'évêque a rejoint l'âge de la retraite. Et en parlant avec quelques personnes de Flandre, on me disait une chose que je ne pensais pas. Une grande préoccupation parmi les jeunes qu'il va arriver la Troisième Guerre mondiale. Si c'est le sentiment qui anime les jeunes, ben on peut bien comprendre comment on peut construire quelque chose si on sait que va tout être détruit. Et pourquoi faire des efforts si tout va être détruit? Eh bien, on a besoin d'espoir, on a besoin de raisons pour vivre. On a besoin de personnes qui puissent nous montrer que Dieu est à l'œuvre dans notre monde, même d'une façon parfois invisible, mais il est là, il travaille, il nous accompagne. Et le pape a ce rôle, nous aider à voir Jésus qui est présent encore parmi nous.
Het is niet voor niets dat Paus Franciscus dit jubileumjaar aan de hoop heeft gewijd. We leven in een wereld waar alles ons ertoe brengt te denken dat we genoeg zijn, dat we op onszelf kunnen vertrouwen. Maar tegelijkertijd merken we dat iets ontbreekt. We missen een innerlijk perspectief, we missen hoop. En ik praat met heel veel mensen. Ik ben nu namelijk begonnen met het bekijken van het bisdom Gent, omdat de bisschop de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. En wanneer ik met mensen spreek, ook bij jongeren, zeggen ze dat die grote bezorgdheid er is bij de jongeren. Ze zien de dreiging van de derde wereldoorlog. Als dit het gevoel is dat jongeren hebben, kunnen we goed begrijpen hoe we iets kunnen opbouwen. Als we weten dat alles zal worden vernietigd. En waarom zouden we moeite doen, vooral als alles vernietigd zal worden? We hebben hoop nodig. We hebben redenen nodig om te leven. We hebben mensen nodig die ons kunnen helpen te geloven dat God aan het werk is in de wereld, zelfs als die soms onzichtbaar is. Maar Hij is daar, Hij werkt, Hij begeleidt ons. En de paus heeft deze rol. Hij helpt ons om Jezus te zien die nog steeds onder ons is.
Il aurait beaucoup de travail.
Ah oui, oui, beaucoup, certainement.
Comme chaque pape.
Le Seigneur donnera aussi la grâce nécessaire. Les papes ne pensaient pas, les différents papes ne s'attendaient pas à être élus pape, et après c'est le Seigneur qui leur a donné l'Esprit Saint nécessaire. C'est la vérité. Le Seigneur nous appelle à une mission. Normalement, il prend des personnes qui n'ont pas toutes les qualités pour cette mission, justement pour que on ne puisse pas s'enorgueillir et dire « Ah, moi, je suis vraiment capable ». Non, il faut plutôt être constaté que je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on me demande, mais en même temps aussi constater que le Seigneur ajoute ce qui me manque.
De paus zal heel veel werk te doen hebben, vermoed ik, vraag ik aan de nuncius. En hij antwoordt: oh ja, heel veel. De Heer zal ook de nodige genade geven. De paus, de verschillende pausen, verwachten niet om paus te worden, maar de Heer gaf hun de noodzakelijke Heilige Geest. Dat is de waarheid. De Heer... Normaal gesproken kiest hij mensen die niet alle kwaliteiten voor deze taak hebben. Juist zodat we niet hoogmoedig zijn of worden en zeggen, ha, zie, ik ben echt capabel. Nee, je moet eerder constateren dat je niet in staat bent voor wat je gevraagd wordt, maar tegelijk ook erkennen dat de Heer toevoegt wat je ontbreekt.
Est-ce que vous avez un dernier message, Monseigneur, est-ce que ce que les auditeurs peuvent faire pour le futur pape maintenant?
Maintenant, nous pouvons prier le Seigneur pour que ouvre le cœur des cardinaux, bien sûr. Le Seigneur travaille, mais il compte aussi sur la collaboration des personnes. Donc, a besoin de trouver des cœurs ouverts pour recevoir son indication, ses indications. Et après savoir accueillir le pape qui nous est donné, il y a toujours la tentation de vouloir de s'imaginer de vouloir choses à notre façon. C'est pas exactement la meilleure façon.
En ik vraag aan Monseigneur Franco Coppola, als hij nog een laatste boodschap heeft voor jullie, wat kunnen wij, luisteraars van Radio Maria, doen voor de toekomstige paus? Hij vertelt: nu kunnen wij bidden. Bidden tot de Heer om de harten van de kardinalen te openen. Natuurlijk werkt de Heer, maar hij rekent ook op de medewerking van mensen. Dus we hebben harten nodig die openstaan om zijn aanwijzingen te ontvangen. En daarna moeten we de paus ontvangen die ons wordt gegeven. Er is altijd de verleiding om een paus te willen voorstellen zoals jij het zou willen. Dat is niet de beste manier.
Dans l'histoire de l'Église et de l'histoire du salut, le Seigneur a toujours surpris et toujours allé au-delà des attentes des personnes. Et donc, je pense que c'est un peu inutile, même frustrant, garder ou vouloir certaines choses, mais plutôt recevoir, c'est un cadeau que je reçois du Seigneur, le recevoir comme un cadeau, donc remercier, l'aimer, et apprendre à l'apprécier. Il faut le scruter bien pour voir où est le cadeau du Seigneur à travers cette personne. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette personne?
In de geschiedenis van de kerk en de geschiedenis van de verlossing heeft de Heer ons altijd verrast en ging altijd verder dan de verwachtingen van de mensen. Dus ik denk dat het een beetje nutteloos is, zelfs frustrerend, om bepaalde dingen vast te houden of te verwachten. In plaats daarvan kunnen we de geschenken ontvangen. Het is een gave die we van de Heer ontvangen. Ontvang het dan ook als een gave. Dus bedanken, liefhebben en leren te waarderen. We moeten goed kijken om te zien waar het geschenk van de Heer is die Hij ons doorheen deze persoon geeft. Wat wil de Heer mij zeggen door deze persoon?
Je suis confiant. Jusqu'à présent, on a toujours eu des papes qui étaient des véritables cadeaux. Et donc, je suis sûr que le Seigneur ne va pas nous recevoir dans les prochains jours.
Merci beaucoup pour votre temps, Monseigneur Coppola, et de nous recevoir chez vous. Un grand merci.
Avec plaisir. Merci à vous pour votre travail vraiment fondamental.
Un grand merci. Tout pour le Seigneur.
En Monseigneur Coppola vertelt verder: ik heb zeer veel vertrouwen. De Heer voorziet. We hebben tot nu toe altijd pausen gehad die echte geschenken waren. En dus ik ben zeker dat in de komende dagen voor de komende paus dat niet anders zal zijn. En ik bedank Monseigneur Coppola voor zijn tijd en dat we bij hem mochten komen voor dit interview, waarop hij antwoordt met veel plezier. Hij bedankt ons ook voor ons werk dat echt essentieel is. Essentieel. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we meer te weten gekomen over wat het conclave nu eigenlijk is, hoe dat het verloopt. En blijven we bidden voor onze toekomstige paus en blijven we bidden voor al die kardinalen die een beslissing moeten nemen. Kom, Heilige Geest.